Info, à Washington.
Avec vous, Henri Francisque, 13h à Abidjan, 14h à N'Djamena. Bienvenue à notre journal. Conflit en Libye, le président de la Turquie, Recep Tayyip Erdogan, a ouvert ce jeudi la voie à une intervention militaire turque directe dans le conflit libyen, en annonçant le prochain vote au Parlement turc sur l'envoi de troupes pour aider le GNA, le gouvernement d'union nationale à Tripoli, soutenu par l'ONU, face à l'homme fort de l'Est libyen, Khalifa Haftar, qui assiège la capitale. La guerre civile en Libye a été au centre de la visite surprise du leader turc mercredi à Tunis, en Tunisie voisine. Les détails avec Abdourahman Dia.
Recep Tayyip Erdogan a rencontré pour la première fois le président tunisien Kais Saied, entré en fonction le 23 octobre. Le chef de l'État turc a déclaré avoir évoqué la coopération avec la Tunisie pour aider à un règlement du conflit libyen. « Nous avons discuté des moyens de coopérer pour parvenir à un cessez-le-feu en Libye dans le cadre de la relance du processus politique », a dit le président turc. L'impact des développements négatifs en Libye ne se limite pas à ce pays, mais touche aussi les pays voisins, en tête desquels la Tunisie, a ajouté Erdogan. La Tunisie partage une longue frontière avec ce pays plongé dans le chaos et accueille des milliers de Libyens depuis la révolte ayant conduit à la chute de Muammar Kadhafi en 2011. La Libye est déchirée entre deux pouvoirs rivaux, le gouvernement d'union basé à Tripoli et dans l'Est un pouvoir incarné par le général Khalifa Haftar qui a lancé en début avril une offensive pour conquérir la capitale. Celui-ci est soutenu par l'Arabie Saoudite, l'Égypte et les Émirats Arabes Unis, des pays avec lesquels la Turquie entretient des relations parfois tendues.
La lutte contre les djihadistes dans le Sahel, au Burkina Faso, une dizaine de soldats burkinabés ont été tués dans la nuit de mardi à mercredi lors d'une attaque contre un détachement militaire à Alalé, dans le nord du pays. L'affrontement a eu lieu alors que le Burkina observe un deuil national de deux jours, mercredi et aujourd'hui, après l'attaque d'Arbinda, où 35 civils, dont 31 femmes, et 7 militaires ont perdu la vie. 80 terroristes auraient également été tués, selon les autorités burkinabées. Le point avec Bagassi Koura.
La patrouille militaire est tombée dans une embuscade dans le village de Alalé, dans le nord du pays. 7 militaires ont perdu la vie sur le champ, selon des sources sécuritaires. Les premières informations ont fait état de 11 morts. 5 autres militaires ont été blessés. Certains sont portés disparus, selon les mêmes sources qui précisent que l'armée a abattu 5 assaillants. Le Burkina Faso observe un deuil de 48 heures depuis mercredi, après une attaque djihadiste d'envergure qui a fait 42 morts dans le nord du pays. La pire depuis 5 ans. 35 civils, dont 31 femmes, font partie des victimes et 7 militaires, dont 4 soldats et 3 gendarmes, ont été tués dans cette attaque armée non revendiquée menée mardi à Arbinda, près de la frontière malienne.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Politique en Côte d'Ivoire, Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale, est en France après son retour raté dans le pays lundi. Ce même jour, le procureur de la République d'Abidjan, Richard Adou, a émis un mandat d'arrêt international contre l'ex-chef rebelle. M. Soro est poursuivi pour, je cite, « tentative d'atteinte à l'autorité de l'État et à l'intégrité du territoire national ». L'ex-président de l'Assemblée nationale ivoirienne est également visé par une information judiciaire pour, et encore je cite, « détournement de deniers publics, recel et blanchiment de capitaux d'1,5 milliard de francs CFA ». Pour une analyse sur les implications politiques de cette décision, Éric Maniratiza a joint à Abidjan l'analyste politique André Silver Conan.
La situation est calme, quoique on sent une certaine tension. L'Ivoirien se serait volontiers passé de cette tension, surtout pendant cette période de fête, d'autant qu'ils ont encore en mémoire ce fameux 24 décembre 1999. Nous sommes à 20 ans, presque jour pour jour, de ce coup d'État qui a renversé le pouvoir du PDCI d'Henri Konabédé. Et donc, la situation est calme, mais on sent une certaine tension. Pour le reste, les implications, écoutez, Guillaume Soro, il joue gros, d'autant que à mesure que les jours vont passer, son espoir de se voir président de la Côte d'Ivoire après Ouattara, sinon même candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2020, ça s'éloigne.
Est-ce que vous pensez que les dés sont jetés?
Non. En politique, qu'on ne peut pas dire radicalement que les dés sont jetés, mais dans l'état actuel des choses, il est dans une position de faiblesse, parce que pour être candidat, il faut déjà être en Côte d'Ivoire. Je le vois mal là, être en Côte d'Ivoire dans les jours qui viennent ou dans les mois qui arrivent. À moins que, d'un côté, le président Alassane Ouattara ait une position diligente, le connaissant, je pense que ça ne sera pas le cas, ou qu'il y ait une sorte d'événement inattendu que je ne souhaite d'ailleurs pas. Pour lui, cela devient très compliqué, mais aussi pour le pouvoir. Je pense que là, ils ont un adversaire coriace qui est à l'extérieur du pays, qui a quand même dirigé une rébellion pendant 11 ans. Et un rebelle, ce n'est pas un enfant de cœur. Il a été chef de la rébellion très jeune déjà. Il a des soutiens internationaux. Il a aujourd'hui, du fait même justement des tracasseries du pouvoir RHDP, une certaine assise internationale. Il a des soutiens sur le plan national. Il commence à avoir de la sympathie, parce que vous savez, les peuples aiment bien sûr les victimes. Il commence à avoir de la sympathie au sein de l'opinion pour lui. Et donc, à mesure qu'on avancera vers son exclusion, parce qu'il est clair que derrière toute cette bataille politico-judiciaire se cache un enjeu électoral empêché par tous les moyens, y compris juridiques, Guillaume Soro d'être candidat à l'élection présidentielle. Et donc, à mesure qu'on avancera, la situation deviendra intenable pour les deux camps.
S'il rentre et qu'il est arrêté, il va beaucoup plus gêner qu'en étant extérieur.
Je ne sais pas si tu l'entreras. On n'a jamais vu un dirigeant, un politicien africain aller se jeter dans la gueule d'un loup, surtout d'un pouvoir qui a une main de fer. J'ai jamais vu ça nulle part. Ce serait d'ailleurs la pire des erreurs pour lui de rentrer, de se faire arrêter, mais vraiment, parce que une fois que vous êtes en prison, vous ne maîtrisez plus vos mouvements.
L'analyste politique ivoirien André Sylvain Conan à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Afrique centrale maintenant, au Congo-Brazzaville, les autorités ont lancé mardi la réponse humanitaire en faveur de quelques 180 000 victimes des inondations dans les régions nord du pays. La cargaison qui a quitté le port fluvial de Brazzaville transporte des médicaments, des vivres et autres fournitures. Le point avec notre correspondant sur place, Arsène Séverin.
260 tonnes de vivres et non-vivres ont marqué mardi du port de Brazzaville. C'est le cadeau de Noël pour les 180 000 victimes des inondations dans le nord du pays. Il s'agit d'une centaine de cartons de médicaments de première nécessité, les savons, les nattes ou les seaux. On remarque également sur la barge qui a quitté le quai de la sardine, du riz, de l'huile et du sel. La ministre en charge de l'action humanitaire, Antoinette Dinganjodo, a assisté au départ du bateau dans le voyage, supervisé par son directeur de cabinet, pourrait durer un mois.
Et là-dedans, nous avons 260 tonnes de vivres et non-vivres, plus des médicaments pour chaque localité. Et pour avoir ces vivres et non-vivres, ce n'était pas facile. Les fournisseurs n'avaient pas toutes les quantités. Il a fallu faire venir de Pointe-Noire. Les équipes qui partent sont constituées des gens formés, civils et militaires. La Croix-Rouge va nous aider et les équipes vont travailler main dans la main. Là, c'est le bateau qui part. À partir de cet après-midi, nous commençons à charger les camions qui vont partir par la route.
Le gouvernement qui avait lancé un appel à l'aide à la communauté internationale a pu réunir sous fonds propres 400 millions de francs CFA pour organiser cette première réponse humanitaire. Elle va viser 30 ménages dans 21 districts des plateaux, de la Cuvette et surtout de la Likwala où on compte le plus de victimes des inondations. Fidèle Dimou, le ministre des Transports, était également au port fluvial de Brazzaville.
Et surtout en cette période de crue, c'est le moment idéal pour que les bateaux puissent naviguer en toute sécurité de Brazzaville jusqu'à Bangui via les localités riveraines du Congo.
Le transport de cette aide humanitaire est assuré par la société Socotraf. Son directeur Alphonse Cani prévoit des endroits de dure navigabilité.
Quand nous rentrons dans les affluents, c'est une navigation un peu périodique à tel point qu'un bateau comme celui-ci ne peut pas naviguer. Donc il y a des petites unités qui peuvent prendre le relais. Mais le fleuve en lui-même, il est navigable. Donc on a essayé d'armer le bateau pour qu'il puisse atteindre Bétou sans problème.
L'aide du gouvernement va s'ajouter à ce que font déjà les organisations internationales comme le PAM et le ICR, permettant ainsi à ces sinistrés de passer d'heureuses fêtes de fin d'année. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Et pour terminer, dans son message de Noël hier à la Cité du Vatican, le pape François a appelé à la paix et à la réconciliation dans le monde. Le souverain pontife a aussi dénoncé les agissements des groupes extrémistes sur le continent africain, notamment au Burkina Faso, au Mali et au Niger. Merci de votre attention.